Ambient Memory sur Radio Graphite, l'émission dédiée aux musiques ambiantes. Philippe Hall vous transporte vers un nouveau voyage. Ambient Memory, l'interview.
Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous accueillir ce soir pour une nouvelle émission d'Ambient Memory, l'interview. Arnaud, artiste bordelais, nous parle de son projet Memory Scale. Il officie depuis 2002. Il nous parlera de ses différents travaux et projets lors de cette interview. Il nous proposera aussi une sélection mix. Installez-vous confortablement et venez découvrir l'univers de Memory Scale.
Ambient Memory.
Bonsoir Arnaud. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Alors, je m'appelle... mon vrai nom, c'est Arnaud Castagnier. C'est Memory Scale, mon nom d'artiste et de ce projet musical. Je vis à Bordeaux. Et j'ai commencé la musique aux alentours des années 97-98, donc ça fait un petit moment. Avec un cheminement qui m'amène depuis 2018 à ce projet de Memory Scale.
Et du coup, justement, ce nom Memory Scale, est-ce qu'il est inspiré de l'échelle de mémoire de Wechsler? Est-ce que ça a une...
Alors, il aurait pu, mais effectivement, la référence. Tu l'as trouvé et finalement je l'ai trouvé après aussi. Mais disons que l'idée c'était évidemment de trouver un nom avec une musicalité, une sonorité qui soit intéressant, parce que j'aime bien les idées de pseudo aussi. J'ai pas voulu non plus trop intellectualiser la chose, mais disons que je voulais que le mot mémoire ou ce qui rapporte à la mémoire soit présent, parce que c'est un projet qui avec lequel je condense un petit peu toutes mes expériences musicales et autres dans ce projet musical. Donc c'était important que ça se retrouve aussi. Et puis scale, la notion d'échelle aussi, c'était une notion à la fois de hauteur, mais de couche et de sous-couche avec des niveaux. Et effectivement, là aussi, dans ma musique, on retrouve aussi ce système de couches et de strates et d'échelles. J'ai trouvé les deux termes et que j'ai associé les deux termes. Je trouvais que déjà au niveau de la sonorité, c'était intéressant. Et effectivement, il y a des références là-dessus que je pourrais à un moment donné aller rechercher. Pourquoi pas faire un album un petit peu là-dessus, mais c'était pas voulu au départ.
Et justement, tu disais que tu avais commencé la musique en 98. Tu as commencé par quel style de musique? Plutôt de l'électro ou d'autres genres musicaux?
Alors, déjà, à la base, je suis pas un musicien en tant que tel. J'ai pas de formation musicale. Je suis complètement autodidacte là-dedans. Je suis vraiment arrivé par le biais de simples auditeurs, en fait, vraiment de l'amour de la musique. J'ai vraiment... j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup écouter de la musique, un peu tous les styles. Et effectivement, hein, dans ma jeunesse, il y a la volonté à un moment donné de passer le pas j'ai pas cherché à jouer d'un instrument, mais disons que je me suis un peu lancé dedans en essayant de passer un peu de l'autre côté, en disant, voyons, on va essayer de tenter des choses. Et effectivement, à cette époque-là, moi, j'étais vraiment... j'aime plutôt du rock ou de la pop, mais j'étais grandement influencé par l'époque Warp. C'était vraiment cette explosion, en fait, de la scène de Sheffield et d'ailleurs, en fait, sur cette mutation un peu électronique. Et c'était lié aussi à l'explosion du home studio. Du coup, tout devenait possible. Et même moi, en fait, à l'époque, moi, je suis originaire d'Agen, dans le Lot-et-Garonne. Donc, j'ai pu, effectivement, mon petit niveau, commencer à bidouiller, en fait, sur des synthétiseurs, grâce, justement, à l'explosion du home studio et du fait que maintenant, à cette époque-là, on pouvait avoir des outils qui étaient peu chers et avec lesquels on pouvait commencer à créer. Donc j'ai commencé à créer, chose qui était un peu nouveau pour moi, et effectivement, mes premières influences musicales, disons, étaient vraiment teintées sur tout ce qui est Warp, avec Twin Otter, The Board of Canada, mais aussi il y avait tout ce mouvement trip-hop, et beaucoup de choses comme ça, hein, qui avec l'explosion de l'électronique un peu presque grand public à l'époque. Donc c'est un petit peu tout ça qui est la base en fait de ma culture de musique électronique, on va dire.
Tu travailles, on va dire, à 100% dans la musique ou tu as peut-être d'autres activités voilà, est-ce que tu as d'autres activités?
Alors, j'ai essayé hein, de travailler à 100% dans la musique à un moment donné. Effectivement, je fais un travail de designer sonore, de communication sonore. Donc, j'ai travaillé un peu dans l'audiovisuel. J'ai travaillé beaucoup avec pour des créations d'art numérique ou interactives. Moi, disons qu'en fait, étant basé à Bordeaux, c'était un petit peu difficile en fait de travailler que dans ce domaine-là. Donc, j'ai un peu diversifié mes formes de communication. Je travaille maintenant dans le web, mais disons que mon travail me permet de nourrir en fait ma passion qui est plus que ça, puisque dans mes bureaux j'ai aussi mon studio de musique, et donc je peux avoir une certaine liberté aussi de composer dans mon studio, d'avoir du temps en studio tout en travaillant à côté, et puis j'arrive aussi à rejoindre un peu les deux, puisque effectivement je continue à faire de la création musicale pour des vidéos ou de l'audiovisuel.
Et du coup ton projet Memoriscal est né à peu près à quelle époque? Est-ce que c'est vraiment au tout début, en 98, ou un petit peu plus tard que tu as vraiment mis en place ce projet?
Alors non, c'est très récent, hein, c'est très tardif aussi, c'est 2018. Disons que dans ma mutation, on va dire, dans mon évolution musicale, je suis quelqu'un d'assez laborieux, même quand je compose. C'est tout un processus qui est très très lent à se mettre en place. Et effectivement, dans ma jeunesse, disons, j'étais j'ai expérimenté des choses, j'ai créé des choses, j'ai produit des choses, mais disons que musicalement, avec le recul, je vois que il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas abouties parce que j'y allais pas forcément à 100%. Et donc dernièrement, en 2018, j'ai fait un petit peu de table rase de tout ce que j'avais fait, de tous les projets en cours. Et j'ai créé ce projet Memoriscal justement en me disant, bon voilà, à ce moment-là, je vais m'y mettre à 100% et plus que ça même. Je vais mettre un peu toutes les influences, tous les gens que j'ai croisés, tous les événements que j'ai vécus. Et je vais vraiment essayer de modeler, me modeler en fait musicalement, voilà, en me posant complètement, en passant vraiment du temps en studio. En allant jusqu'au bout des choses ça a pris forme et puis aussi ça a pris de l'ampleur par rapport à tout ce que j'avais fait avant qui était intéressant aussi, mais voilà, qui n'était pas dans une forcément une implication totale, alors que Memoriscal pour le coup c'est une vraiment une volonté de en tout cas pour moi de me donner à fond en fait pour ce projet là.
Il y a aussi des artistes qui t'ont inspiré, que ce soit pour Memoriscal ou même ce que tu as pu faire avant. Est-ce que tu as, on va dire, des artistes phares qui, qui t'aident dans justement l'élaboration de tes différentes productions?
Alors des artistes phares, il y a évidemment des courants musicaux. Il y a des, en fait, comme je l'ai dit, moi, j'ai toujours écouté beaucoup de musique très très différente. En fait, comme tout le monde, hein, je pense. Mais disons que je suis pas forcément fan d'un courant précis. Il y a des choses que évidemment on découvre sur le tard, des choses on revient un petit peu en arrière, etc. Disons que dans les gens que j'ai appris à connaître leur histoire et leur musique, il y a quand même Brian Eno. Ça fait assez cliché de dire ça, mais peut-être pas. En fait, plus par rapport à ce qu'il a été en tant que producteur ou il était même plus que ça, mais disons sa place en tant que musicien producteur. Voilà, c'est quelque chose qui rentrait en résonance parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, moi je suis autodidacte et effectivement l'instrument. Je suis assez limité sur les instruments en général, que ce soit le clavier ou la guitare, et le studio ou la production, les modes de production, Brian Eno est quelqu'un qui a réussi à à s'affranchir en fait de théories classiques et d'aller au-delà et, comme il le dit si bien, d'utiliser en fait le studio comme un instrument. Donc c'est vrai que dans ma façon de faire, c'est quelqu'un qui est une référence parce que justement ce n'est pas, on va dire, un musicien classique à proprement parler. Voilà, après tout le travail qu'il a fait évidemment sur l'ambiance et c'est les disques qu'il a réalisé lui-même, après les disques qu'il a produits aussi qui sont que je trouve très intéressants dans sa carrière. Donc voilà, ça c'est une personne. Après il y en a plein dans les producteurs, pareil, on peut parler de Conny Plank aussi qui a forgé un peu tout le crotrock, mais plus que ça aussi. Donc là aussi ce rôle de producteur un peu oreille et musicien. Et puis, bon, mais plus récemment, c'est vrai, je parlais de l'époque de Warp, mais c'est vrai que moi, au début, là, ce qui m'a vraiment marqué, qui continue de m'accompagner, en fait, tous les jours, dans ma voiture, ou chez moi, dans ce que j'écoute, c'est notamment Board of Canada, parce que c'est quand même un duo qui s'est forgé une entité très forte, avec des références aussi, avec une production, une façon de composer qui est assez particulière parce que justement on ne sait pas trop comment c'est composé, en fait ça arrive à avoir une matière qui est très intéressante et c'est ce à quoi je tends en fait aussi quand j'essaie de créer de la musique.
Après, tu as fait pas mal d'autres choses au niveau travail. Tu es aussi passé dans une émission, une appli Blast, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Tu as pu participer aussi à une compilation pour l'Ukraine, pour la précarité des étudiants. Justement, comment sont arrivés ces projets? Est-ce que c'est des choses qu'on t'a proposées ou que c'est toi qui est venu de toi-même proposer, on va dire, entre guillemets, tes services? Enfin, comment ça s'est passé?
Évidemment, en fait, on sait très bien que la musique de nos jours, ça évolue très très vite, aussi bien dans la composition que les habitudes d'écoute et les moyens d'écoute. Effectivement, on peut en débattre énormément. On peut être critique sur pas mal d'aspects. Il se trouve que le vinyle, la cassette, Spotify, tout ça est là. Donc après, à chacun un petit peu de se placer comme il le sent par rapport à son éthique et par rapport à aussi réfléchir un petit peu comment faire écouter ce que l'on crée, parce que c'est quand même ça aussi le but de chacun. Et c'est vrai que, par exemple, l'application Blast, j'ai découvert ça en fouillant un peu sur le net au début quand ça a été lancé. C'est assez intéressant. Finalement, c'est un mélange entre une radio. En fait, quand les gens ont envie de diffuser, ils déclenchent en fait soit un plugin, soit un petit appareil sur lequel ils branchent une source audio. Ça les met en ligne finalement directement et ça stream en live. Et donc les personnes qui les suivent reçoivent une notification en disant, ah voilà, un tel est en train de jouer en live. Et après, il y a un petit côté TikTok, c'est-à-dire que les enregistrements ne sont disponibles que 24 heures, je crois, et après ils disparaissent. Donc, je trouvais ça intéressant parce ça arrive à mixer, à avoir un équilibre entre tout ce qui est l'existant, mais en trouvant finalement une forme d'expression, une certaine liberté, hein, c'est-à-dire que c'est l'artiste qui choisit quand il va diffuser. Voilà, je trouvais ça intéressant, j'avais pas envie d'être brimé par un emploi du temps ou des choses comme ça, ou la nécessité de rythme. Et puis, je suis assez curieux là-dessus, et c'est vrai que le système marche bien, les gens derrière essayent de booster un petit peu. Je sais qu'il y a Yann Tiersen en France qui est très très actif sur Blast. Donc ça lui donne beaucoup de visibilité, notamment aux États-Unis, puisque c'est une appli américaine. Voilà, je trouvais ça intéressant. On était entre le podcast pour artistes et le streaming en live. Donc voilà, ça c'est des petites choses qu'on recherche un peu tous, hein, pour essayer de développer un peu nos nouvelles façons en fait de diffuser notre musique. Et puis ensuite, à côté, il y a les choses classiques, les sorties classiques. Effectivement, là dernièrement, la compilation là pour l'UNICEF, en fait, pour soutenir l'effort de l'UNICEF en Ukraine. Voilà, c'était tout un groupe de personnes avec qui on discute sur Twitter, différents artistes. Et effectivement, c'était un petit peu l'occasion de faire un petit geste dedans, donc c'est toujours bien.
Après, du coup, justement, tu as aussi des travaux que tu as pu faire. Enfin, tu as pu justement faire de la musique, comme des siestes musicales, des séances d'écoute dans les médiathèques. Donc, ça, pareil, est-ce que c'est un exercice que tu affectionnes?
Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, dans les années 2000, notamment, moi, je connaissais Bordeaux, effectivement. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées au niveau de cette scène un peu électronica, musique expérimentale, IDM, une espèce de fusion. Et effectivement, j'ai eu la chance de participer aux premières éditions de festival Le Placard, qui était monté par Eric Minkinen. Donc c'était un festival d'écoute au casque, ça se passait en général dans des lieux qui n'étaient pas dédiés à la musique, des appartements, des choses comme ça. Ça durait 72 heures, on s'inscrivait en ligne, on s'inscrivait sur son créneau horaire, et les gens venaient, il y avait une douzaine de casques disponibles, et les concerts étaient diffusés uniquement au casque, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment écouter au casque pour entendre la personne qui était en train de jouer devant vous. Et ça se faisait par exemple à Bordeaux et ailleurs dans le monde, à Tokyo, à Los Angeles. On pouvait aussi monter des placards qui, eux, étaient sur le même principe. On écoutait au casque, mais on écoutait au casque la personne qui était en train de jouer à Bordeaux à ce moment-là. Donc il y avait toute une connexion. C'était vraiment l'idée de réseau à ses débuts. C'était vraiment une communauté qui était en une espèce d'activisme, de hacking musical. Qui était très intéressant, mais du coup cette écoute très personnelle et très particulière au casque, c'est quelque chose qui était très intéressant parce que justement on avait on composait différemment, on jouait différemment, on était réceptif d'une manière aussi différente. Et ça, j'ai eu de la chance de participer donc dans le cadre du festival Le Placard. Et puis il y a eu la même chose sous forme d'une installation en verre, une espèce d'aquarium où on jouait à l'intérieur et les gens écoutaient au casque à l'extérieur. Et j'ai participé aussi au musée d'art moderne, au CAPC à Bordeaux et à Beaubourg aussi. Donc là aussi, c'était des tests sur des différentes façons de diffuser sa musique. Et je trouve que cette partie de la musique électronique, en tout cas, ce mouvement qui est pas si petit que ça, hein, mais disons qu'entre l'électronica, l'ambiance électronique, etc., ça permet justement d'expérimenter d'autres formes de diffusion musicale et ces concerts particuliers en faisaient partie.
Début janvier, je crois, tu as sorti l'album Soft Power. Donc justement, comment est né ce projet ?
Par rapport à Memory Scale, en 2018, j'ai d'abord sorti ce qu'on peut considérer en fait comme un premier album, qui était une sorte de compilation de morceaux qui avaient mûri un petit peu même avant l'ère Memory Scale. J'ai sorti ça sous la forme d'une cassette parce que je trouvais que le format mixtape, c'est-à-dire tout enchaîné, se prêtait bien en fait à ces types de morceaux. Il fallait arriver à les lier. Du coup, la mixtape façon hip-hop, ça permettait aussi de les présenter d'une façon intéressante, au-delà du fait que la cassette était revenue à la mode et que c'était pas cher à produire. Ensuite, j'ai sorti un deuxième album qui s'appelle The Shadow and the Shape, autoproduit. Donc là aussi, moi, par contre, en format numérique. J'ai eu la chance aussi du coup d'être masterisé par Taylor Dupré de 12K sur cet album, donc du coup c'était aussi pour moi une marche supplémentaire au niveau de la production. Et disons que j'avais ce troisième album en préparation, et puis je me suis dit, j'ai quand même tenté de proposer à des labels un petit peu, même si j'avais plus je savais plus trop en fait si ça fonctionnait encore comme ça. Et à ma grande surprise, il y a Audiobulb, qui est un label de Sheffield, qui était tout à fait d'accord pour le sortir. Donc ça, c'est intéressant aussi d'avoir l'écoute et la confiance de gens extérieurs, qui plus est à Sheffield, qui est aussi du coup par rapport à mes références, qui est une ville qui compte. Et du coup, cet album, pour le coup, c'était j'ai toujours eu plus ou moins intégré des notions de rythmique dans mes morceaux, de la batterie, de la basse, de la guitare. Mais cet album, il a été fait vraiment tout seul, hein, masterisé, mixé. Je voulais quelque chose d'un peu plus posé. Donc effectivement, j'ai enlevé toutes les notions de rythmique et je suis tombé sur quelque chose de très électronique, ambiante, dans ce sens-là. Effectivement, le label a été d'accord pour le sortir. Et a priori, j'ai deux autres albums à sortir en suivant. Donc il a été sorti, il est sorti exactement en novembre. Et ben finalement, il a duré dans le temps. C'est-à-dire que d'habitude, maintenant, les sorties, au bout de 2 semaines, l'actualité baisse un peu. Et là, étonnamment, il y a toujours eu un peu d'actualité, de playlist, d'articles. Du coup, je me suis décidé au mois de janvier, en fait, de sortir une édition limitée en CD. Pour le coup, c'est qui était avec l'accord du label, évidemment. Mais parce que j'avais envie j'avais envie que cet album ait son objet, pas pour moi, mais peut-être pour lui, en fait, parce que je trouvais que finalement il avait bien fonctionné et il méritait finalement un petit objet. Donc je suis content aussi parce que cet objet, j'ai pu collaborer avec mon ami Julien Gachadois, qui est un artiste codeur de Bordeaux. Et spécialiste de processing et de tout ce qui est oxydro, en fait, du graphisme avec une sorte d'imprimante avec un stylo. Et il m'a fait aussi un visuel qui correspond tout à fait à l'album et qui aussi participe au succès de cet album, je pense. Et voilà, c'est un album dont je suis très fier parce que justement, je l'ai fait de A à Z. Il est très, très intimiste, on va dire, hein. Voilà, pour le coup, il y a ce dont je parlais, les différentes strates, les différents niveaux, les aspects mélodiques, en fait, qui font que je sors du terme ambiante, parce que justement, j'aime les accords, j'aime les mélodies, donc on n'est pas sur du drone, on va dire, mais voilà, je suis arrivé à trouver un équilibre justement entre ce côté mélodique et ce côté électronique et texture sonore qui me convient tout à fait.
Oui, donc l'album est disponible en CD, en numérique. Tu avais projeté peut-être aussi le faire en vinyle, parce que tu parlais que les cassettes étaient revenues à la mode. Ce sont des objets aussi de collection. Le vinyle aussi revient un petit peu en force. Après, bon, il y aurait que le mastering, la conceptualisation du vinyle, c'est pas évident. Est-ce que tu avais pensé justement à l'éditer en vinyle, ou est-ce que c'est en projet pour les prochains albums à venir?
Alors, le vinyle, hein, j'adore le vinyle, hein, j'adore le format, j'adore l'objet. Ça, il y a pas de souci là-dessus. Moi, à mon niveau, vu maintenant effectivement le coût d'un vinyle, il y a les délais, etc. Ça serait vraiment un vrai luxe, en fait, pour le coup, d'éditer un vinyle. Donc je sais pas. Après, moi, je suis parti sur le CD. C'est pas qu'une histoire de coût, c'est parce que le CD, il offre aussi des formats intéressants. Il fait référence aussi à l'époque. À une certaine époque où effectivement j'ai acheté beaucoup de CD. Donc le vinyle, pourquoi pas, mais franchement, il faudrait qu'il y ait un soutien ou quelque chose qui fasse que je puisse éditer un vinyle, mais c'est pas forcément une obsession pour moi. Je pense qu'on peut trouver d'autres choses ou peut-être diffuser de la musique différemment, mais en tout cas, bon, effectivement, je serais très content, mais c'est pas à l'ordre du jour, en tout cas.
Et justement, pour revenir à l'album, est-ce que tu as utilisé du field recording? On a l'impression qu'il y a des petites sonorités, je sais pas, enregistrées dans la nature, enfin, qui ont été transformées. Est-ce que tu as utilisé ce genre de, justement, d'éléments de field recording pour ton album?
Alors, oui, il y a pas mal de field recording ou, on va dire, d'enregistrement un peu plus classique dans la façon de faire. Il y en a dans à peu près tous les morceaux. Alors en fait, l'idée aussi, c'est que justement, quand ce projet de Memory Scale, c'était aussi une volonté de mettre un peu tout ce que j'avais, tout ce que je suis aussi actuellement. Donc voilà, je suis père de famille aussi. Et l'idée, c'était d'aussi d'intégrer toute cette notion-là, donc toutes les notions d'enfance, de mon enfance, mais aussi de ce qui se passait actuellement. Et donc, c'est parsemé, en fait, de sons plus ou moins distincts aussi. Il y a des voix que je retravaille, on ne sait pas que c'est des voix, ça devient des éléments. Mais disons que, qu'effectivement, il y a les voix de mes filles qui sont présentes dans cet album. La dune, bon, étant donné que j'habite Bordeaux, je suis pas loin de l'Atlantique et du bassin d'Arcachon, donc j'y vais souvent. Et bah, effectivement, quand je me balade en forêt ou dans la dune, justement, j'ai tout le temps mon enregistreur à la main. Ça aussi, ça a une accumulation. L'album, il a été créé par des sessions en fait d'enregistrement. Donc j'enregistrais tout ce qui se passait dans mon studio, tout ce que je faisais, tout ce que je trouvais comme idée. Et aussi, en dehors de mon studio, j'enregistrais des choses et d'autres. Donc à un moment donné, j'ai regroupé toute cette matière musicale et non musicale. Et je me suis dit, voilà, le défi, ça va être de les mettre ensemble pour faire des morceaux de musique, alors qu'effectivement, ça a été enregistré de façon différente, à des moments différents. Donc c'était intéressant parce que ça m'a permis de sortir aussi d'une certaine grille de rythme et de tempo. Voilà, il y a quand même quelques morceaux où effectivement on n'est plus sur une notion de synchronisation de tempo, de choses comme ça, et puis aussi arriver à faire concorder harmoniquement des enregistrements différents et justement des prises sonores. Donc c'est un jeu, hein, de toute façon, composer de la musique, jouer de la musique, il y a le mot jouer, donc c'était un vrai jeu. Mais effectivement, l'idée aussi, c'était de parsemer de temps en temps par ces notions, par ces enregistrements de field recording qui... alors il y en a quelques-unes, il y a guère que moi qui pourrait trouver le détail, mais disons que c'était important que ça soit présent dans cet album, et je pense que ça va être présent dans toutes mes compositions dans le futur.
D'accord, est-ce que tu qualifies justement les différents morceaux comme pièces sonores ou de production à proprement parler ?
Là, pour le coup, je dirais des productions, parce que justement, dans ma musique, il y a quand même la notion de mélodie, de gamme, d'accord, qui est quand même très très présente, qui est finalement très très classique dans l'approche. Après, c'est effectivement les structures des morceaux, la musique électronique et l'ambiance en particulier ont permis aussi de sortir de techniques musicales établies, toutes les notions de couplet-refrain, de choses comme ça. Donc, pour le coup, c'est effectivement plutôt des morceaux de musique, des pièces sonores. Voilà, j'ai pas mal d'amis et de connaissances qui sont vraiment dans la musique ou l'enregistrement ou la composition de la pièce sonore. Je vois très bien effectivement les différences avec ce que je fais. Donc voilà, moi, le fait que ce soit des morceaux de musique me va très bien.
Où est-ce qu'on peut se procurer tes différentes productions ? Est-ce que tu es sur des choses classiques, genre Bandcamp ? On peut se procurer tes productions ?
Oui. Alors, l'idée, hein, voilà, hein, vu en tant que musicien un peu indépendant, effectivement, Bandcamp, c'est l'idéal parce que c'est la meilleure plateforme actuelle pour découvrir la musique et des musiciens indépendants. On passe aussi, je parlais aussi de volonté, de choix éthique. Bon, ben là, pour le coup, je suis aussi sur Spotify, je suis sur Deezer, toutes ces plateformes-là, je les utilise aussi. Et après, j'ai aussi un site, hein, un petit peu old school, ma manière de procéder. Et j'ai un site qui n'a pas du tout mon nom en plus, c'est asbw.fr. SBW. C'est-à-dire Space Between Worlds. Voilà. Mais en fait, c'est sur ce site que je regroupe un petit peu toutes mes productions, plus d'autres choses, plus les vidéos que je fais aussi. J'aime beaucoup accompagner ma musique de vidéo. J'aime bien créer des vidéos aussi. Plus, effectivement, il y a quelques bonus et choses en plus. Enfin, j'aime bien l'idée d'avoir un site qui regroupe tout, même si je sais que de nos jours, c'est plus trop ça que l'on regarde, mais c'était intéressant aussi que d'avoir une présence un peu globale sur le net.
On peut aussi, j'imagine, te retrouver sur les différents réseaux sociaux classiques, Facebook, Instagram, pour avoir ton actualité, notamment.
Oui, voilà. Bon, après, c'est moi, bon, j'aime bien, enfin, évidemment, j'utilise Instagram, j'aime bien utiliser Twitter aussi. Parce que ça permet justement d'échanger et de discuter. Voilà, c'est les réseaux classiques du web de nos jours.
Très bien, écoute, je te remercie en tout cas d'avoir répondu présent à l'émission. Donc on rappelle donc ton album Soft Power, Memory Scale, Soft Power, disponible en édition limitée, en CD notamment, avec une belle pochette, comme tu disais, par rapport au design, hein, qui a été fait sur Bandcamp, c'est bien ça?
Oui, tout à fait, et donc édité en digital sur le label de Sheffield Audiobulb.
Une dernière question, est-ce que tu as des événements et des projets à venir?
Alors, des événements, a priori, pas vraiment. Je suis un peu là, je travaille déjà sur le prochain album. Après, effectivement, dans la réflexion sur comment faire des concerts, comment diffuser sa musique par rapport au public de nos jours. Bon, il y a eu le Covid qui est passé par là, ça a permis de réfléchir un peu. Après, c'est vrai que dans ce style musical, ça ouvre le champ des possibles. Donc l'idée, c'est au lieu de faire des concerts un peu machine, un peu classique, c'était de présenter ça sous deux formes différentes, soit vraiment sous la forme d'une diffusion de l'album, d'une diffusion, d'une session d'écoute en fait. Bon, l'idéal effectivement, c'est en multidiffusion, donc en jouant vraiment sur les canaux audio. Et après, je réfléchis aussi à la possibilité de travailler sur une installation sonore autour de cet album, donc avec une scénographie, quelque chose qui pourrait être exposé autour de l'imagerie de cet album, avec l'album qui tourne en boucle, et la possibilité aux gens en fait de non seulement d'écouter, mais de visiter finalement un endroit où sera diffusé cet album. Donc ça, c'est un petit peu le projet de la fin de l'année.
Ambiante Memory sur Radio Graphite.
Place à la sélection mix de Memory Scale, qui nous fait découvrir ses morceaux ainsi que quelques-unes des productions et des opus qu'il affectionne. Laissez-vous bercer par cette sélection mix.
Ambiante Memory. Ambient Memory, l'interview.
Thank you.
Ambient Memory, l'interview.
Thank you.
Ambiante Memory.
L'émission se termine, j'espère que vous avez pu apprécier cette interview et cette sélection mix. Je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker la page d'Ambiante Memory sur Instagram et Facebook. Vous retrouverez toutes les informations et surtout le podcast. Je vous souhaite donc une agréable soirée en compagnie de la playlist de Radio Graphite.
Ambiante Memory sur Radio Graphite.